Bienvenue dans le 7-9, nous sommes le lundi 16 mai, Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des sourires dans le métro ou le bus. Le masque n'est plus obligatoire dans les transports à partir d'aujourd'hui, alors que les nouvelles contaminations sont tombées à 34 000 chaque jour. Les détails, Anaïs, après les autres titres.
Jean Castex, prêt à passer la main, sans remords ni regrets, une question d'heure cette fois. La Turquie pourrait-elle être le grain de sable dans l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, on fait le point dans ce journal. Et puis un très rare dessin de Michel-Ange, certainement sa première étude de nu vendue aux enchères à Paris.
Et les invités d'Inter ce matin avec vous Léa, à 7h50.
Eh bien l'une de nos plus grandes actrices françaises, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, elle irradie le nouveau des Pléchins, frère et sœur en compétition officielle. Elle y est éblouissante en actrice de théâtre en proie à une haine féroce contre son frère. Marion Cotillard sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa, 8h20 dans l'attente de la prochaine ou du prochain Premier ministre et du futur gouvernement. Trois invités ce matin dans le grand entretien. Jérôme Fourquet, Corinne Laïc, Vincent Martini et toutes vos questions. Dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Dernier marqueur bien visible d'une pandémie qui nous accompagne depuis 2 ans. Fini le masque depuis ce matin dans les transports en commun, ni dans les métros, les bus, les taxis, les avions ou les trains, qu'ils soient TER ou grandes lignes. Et si la vie des voyageurs change, celle des contrôleurs aussi. Faustine Calmel, vous avez constaté leur soulagement, plus besoin de faire la police.
Pendant des mois, Reynald, contrôleur SNCF, a craint les disputes, voire les bagarres dans ces trains, confrontés à des voyageurs, certains anti-masques, parfois assis à côté de passagers, au contraire très précautionneux.
Des personnes, soit qui venaient nous chercher pour nous dire « un tel porte pas le masque à côté de moi », ou alors qui réglaient leur compte entre eux. On sentait que la moindre petite étincelle faisait déborder les gens.
Les violences envers les contrôleurs ont augmenté, assure le représentant du syndicat Sudrail. Alors oui, à l'idée de ne plus devoir faire respecter ce port du masque, il est soulagé, mais tout n'est pas si simple.
Personnellement, moi, oui, ça va m'enlever une sacrée épine du pied. Maintenant, la pandémie, elle n'a pas disparu. Chez certains collègues, il va y avoir ce sentiment de risque. Il y a vraiment la dualité, mais moi, ça me fait plaisir en tout cas.
Un plaisir qui risque en revanche de s'évanouir au moment de passer la frontière, concède Reynald, habitué des trains vers l'Italie où les règles sont différentes.
De dire aux gens, il y a 5 minutes, aucun masque ne l'était, mais 5 minutes après, c'est masque FFP2 obligatoire. Il y a encore des situations ubuesques qui vont se produire.
Et là, il faudra encore faire preuve de pédagogie. Promet celui qui n'a pas dressé un seul PV pour non-port du masque ces derniers mois.
Pour autant, en France, le masque reste obligatoire dans les hôpitaux et les maisons de retraite et recommandé partout. Ne surtout pas s'imaginer qu'on est en sécurité. L'épidémie a beau être sous contrôle, elle n'est probablement pas finie. Peut-être la mesure est-elle trop rapide, estime Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Moi, je pense qu'elle est trop tôt. On a encore 80 à 90 morts jour. Il y a encore 1600 personnes en réanimation. C'est vrai que c'est en baisse. Les gens restent beaucoup moins longtemps, il y a beaucoup moins de formes graves, et tant mieux. Mais ce n'était pas réclamé. Parce que si vous voulez, vous allez avoir 2 types de personnes. Des personnes avec le masque et d'autres personnes sans masque. Ils vont se regarder en chaîne faïence. Oh là là, il n'a pas le masque, je vais risquer, je vais me tourner. Il y a même des personnes, et je l'ai entendu, qui ne voudront plus prendre des transports en commun. Conclusion, le virus circule toujours. L'épidémie, elle est certainement moindre, mais elle existe toujours. Donc vigilance.
L'infectiologue Robert Sebag, alors que la maladie, on l'a compris, n'est plus vraiment une préoccupation ni sanitaire, ni même politique, très peu évoquée pendant la campagne présidentielle qui a vu la réélection d'Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Depuis, le temps politique semble s'étirer. On s'attendait à un changement de gouvernement immédiat. Voilà que la démission de Jean Castex prend du temps et qu'on ne sait rien de son possible successeur. Mais Yael Gauz, cette fois c'est sûr, tout va s'accélérer cette semaine.
Je vous promets qu'on n'a jamais été si proche de la fin, plaisante un ministre qui ignore tout du sort qui lui sera réservé. Une fois que Jean Castex aura formellement démissionné, la lettre est prête, classique et simple d'après Matignon, sans remords ni regrets. Combien de temps avant la fumée blanche? Au gouvernement, on s'attend à une nomination puis une passation entre aujourd'hui et demain. Et ensuite, quel ministre et quand? Là, cela pourrait durer encore un peu, quelque part entre demain et vendredi. Problème de ressources humaines? Non. La haute autorité passe au laser les non-conditionnés. qu'on lui soumet depuis 15 jours pour éviter toute erreur de casting. C'est surtout que le président joue la montre, explique l'un de ses amis. Depuis le début, c'est son obsession, les 50 jours, intermède inédit entre la présidentielle et les législatives. Et puis, c'est plus réjouissant, confirme un conseiller, de voir la NUP se fracturer sur le burkini et à Abouafs, plutôt que nous, de prendre les coups. Quant au profil pour Matignon, qui a le CV parfait, personne ne coche toutes les cases. Comme pour Jean Castex et Édouard Philippe, l'ancrage territorial qui fait défaut à Emmanuel Macron sera, nous dit-on, l'un des critères déterminants.
Les législatives, vous en parliez hier, il n'y a pas qu'à gauche que les investitures venues d'en haut sont contestées par la base. En Dordogne, La République En Marche locale soutient la députée sortante à Sarlat contre le candidat investi par le parti. C'était le perdant de 2017 avec l'étiquette LR. En outre, condamné pour violence conjugale et qui n'a toujours pas pris contact avec les comités locaux. Enfin, toujours au chapitre politique, la crispation de retour dans les piscines. Le conseil municipal de Grenoble va modifier aujourd'hui le règlement très strict des piscines municipales pour assurer l'égalité d'accès aux services publics et la liberté de se vêtir ou de se dévêtir. La préfecture de l'Isère y voit une atteinte à la laïcité avec l'autorisation de facto du burkini. Le préfet contestera la décision devant le tribunal administratif grâce à la nouvelle loi sur le séparatisme. Dossier dans le journal de 8h.
Il est 7h06, la première ministre suédoise devant son parlement aujourd'hui.
Pour tourner une page diplomatique de 200 ans, loin de toute alliance militaire, le gouvernement suédois doit officialiser sa candidature à l'OTAN, comme l'a fait hier la Finlande, dans une décision historique là aussi. Formellement, les dossiers doivent être transmis au siège de l'organisation à Bruxelles et il faut l'unanimité des 30 membres actuels. C'est là que ça se complique, Pierre Benazé à Bruxelles.
La candidature à l'OTAN doit maintenant être approuvée par le Parlement finlandais, ce qui n'est pas un véritable problème, mais ce doit être fait afin de pouvoir formellement envoyer une lettre de candidature à l'Alliance Atlantique. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'OTAN commencera à examiner cette candidature que la Finlande croyait sans encombre, puisqu'elle est politiquement proche des 30 pays alliés, et puisque son armée est totalement interopérable avec les armées de l'Alliance. Mais c'était compté sans la Turquie, qui a continué à émettre des doutes ce dimanche, Sanna Marin, première ministre de la Finlande.
Évidemment, notre intérêt serait que le processus de ratification soit le plus bref possible et qu'il se produise de manière fluide. Nous n'avions eu aucune indication à l'OTAN qu'il y aurait des problèmes pour la candidature de la Finlande et de la Suède. Et puis nous voyons ces déclarations sur des questions qui subsistent. Il est important que nous ayons des discussions avec ces pays de manière calme pour débattre des problèmes qu'il pourrait y avoir.
Le ministre turc des Affaires étrangères a précisé que la Turquie voyait la candidature de la Finlande à l'OTAN d'un œil plus favorable que celle de la Suède, mais ceci n'a rien pour rassurer les Finlandais qui veulent une adhésion simultanée à celle des Suédois. Pierre Benazé, France Inter. À Bruxelles.
L'adhésion à l'OTAN n'aurait pas été un sujet sans l'invasion russe en Ukraine. Sur le terrain, les hommes de Vladimir Poutine se concentrent désormais sur le Donbass. Ils auraient perdu un tiers de leurs forces de combat depuis février, selon les renseignements britanniques. Quant à la Russie, la plupart des grandes sociétés occidentales en sont parties, mais continuent d'y payer des salariés, environ 200 000. Et on ne sait pas combien de temps va durer cette situation, Sylvain Tronchet.
Rares sont les entreprises occidentales qui ont totalement quitté la Russie. La plupart d'entre elles ont en fait gelé leurs activités, à l'image de McDonald's qui a fermé ses restaurants, Michelin, Renault qui ont arrêté leurs usines, mais tous continuent de payer leurs salariés. Certains d'ailleurs travaillent toujours. Il reste notamment des commandes à livrer qui avaient été prises avant le déclenchement de la guerre ou de la maintenance sur les sites industriels. Mais pour beaucoup d'entre eux, la situation commence à devenir étrange, comme le raconte Marina, designer chez IKEA, dont les magasins sont fermés, mais qui continue à aller au bureau tous les jours.
Les deux ou trois premières semaines, c'était très amusant. Nous faisions de la formation, nous étions très créatifs. C'était très agréable parce qu'il n'y avait plus la pression du travail. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être enfermé sous cloche, comme dans un reality show. Et ce n'est que lorsque vous partez du travail que vous redevenez une personne réelle.
Si ces entreprises continuent de payer leurs salariés, c'est qu'elles n'ont pas totalement renoncé au marché russe, explique un représentant de la communauté d'affaires. D'autres cherchent une porte de sortie, mais en attendant, elles se conforment à la loi russe pour éviter une éventuelle saisie de leurs actifs dans le pays. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Aux États-Unis, Joe Biden à Buffalo aujourd'hui, lieu de la tuerie de masse raciste de samedi. Nous devons travailler pour combattre la haine, dit le président américain. Nous l'entendrons à 7h30.
Il est 7h10, du chocolat bon pour le porte-monnaie et la planète.
Les chocolats équitables, par exemple, pas encore frappés par l'inflation. La quinzaine du commerce équitable se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Dans ce secteur, 10 000 produits proposés. Face à la flambée des coûts de production, les prix augmentent moins vite qu'ailleurs grâce à un système plutôt protecteur, Agnès Soubiran.
Chocolat, café, thé, viande, dans cette Biocoop de Vincennes en région parisienne, un quart des produits vendus sont issus du commerce équitable.
Une plaquette de beurre, on est à 2,99 les 250 grammes. C'est un produit, chez nous, il n'a pas bougé de prix, je dirais, depuis qu'on a ouvert le magasin quasiment.
Samuel Gérard, gérant du magasin depuis 6 ans.
On a besoin finalement de moins de marge qu'un magasin, on va dire, type grande surface, qui lui a beaucoup plus de services pub à rémunérer, d'actionnaires. Donc ça permet aussi d'avoir des sources d'économies qui ne sont pas négligeables et de redonner ça aux consommateurs et aux producteurs.
Une éthique qui séduit Thomas, venu faire le plein de fruits et légumes.
C'est vraiment très important, c'est qu'en fin de compte, tout le monde doit travailler et bien vivre de son travail. On met bien de l'argent dans des choses qui sont un peu plus futiles, mais là, l'alimentation, il faut mettre un peu plus cher.
Assurer aux producteurs un revenu juste en signant des contrats sur plusieurs années, c'est aussi une façon de lutter en partie contre l'inflation. Julie Stoll est la déléguée générale de Commerce Équitable France.
Dans les augmentation de prix, il y a aussi de la spéculation. Et donc ça, par contre, on ne le retrouve pas dans le prix du commerce équitable, ce qui permet effectivement de limiter les hausses de prix pour les consommateurs.
Pour l'heure, le commerce équitable résiste bien. Après une année 2021 record, où le chiffre d'affaires a franchi pour la première fois la barre des 2 milliards d'euros.
Quel avenir pour Kylian Mbappé, rester au PSG, partir au Real Madrid. L'attaquant a dit hier soir qu'il avait quasiment arrêté son choix lors des trophées UNFP qui l'ont encore sacré meilleur joueur de foot. L'attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto, élue, elle, meilleure joueuse féminine. Et on termine avec cette rareté aux enchères. Un Michel-Ange, rien que ça, vendu cette semaine chez Christie's. C'est un dessin Amélie Perrier, estimé 30 millions d'euros.
C'est un dessin à peine plus grand qu'une feuille A4, réalisé avec deux ans brune, une œuvre de jeunesse de Michel-Ange datant de la fin du XVe siècle, certainement sa première étude de nu jamais identifiée. Une étude d'une fresque de Masaccio qui se trouve dans une église de Florence en Italie. Un homme nu, pieds joints, jambes fléchies, les bras croisés comme frigorifiés. Et cette pépite ne vient pas d'un musée, mais d'une collection privée française. C'est extrêmement rare, nous confirme Stein Alstins, directeur international du département des dessins anciens chez Christie's.
C'est absolument exceptionnel. Je crois qu'il y a certainement moins de 10 dessins de Michel-Ange en main privée. Donc c'est d'une rareté extrême. Et parmi ces dessins, celui-ci est un des 2-3 plus beaux. Le dernier dessin de Michel-Ange a été vendu par nous en 2009. Et voilà, 11 ans après, les musées aussi bien que les collectionneurs privés ont une nouvelle chance d'acquérir une feuille de cette figure immense de l'histoire de l'art.
Car le dessin, estimé à 30 millions d'euros, a été classé trésor national en 2019 pour permettre au musée français public de réunir les fonds pour l'acheter. Mais finalement, l'État ne fera pas d'offre. Alors l'homme nu de Michel-Ange pourrait quitter la France à l'issue de la vente. Le chef-d'œuvre aiguise les appétits de grandes institutions américaines, asiatiques, européennes et de grands collectionneurs étrangers.
Et il est exposé au public chez Christie's à Paris jusqu'à la vente mercredi.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes aujourd'hui. Vilnius, nouveau décor du cinéma.